La politique, les jeunes utilisent les mouvements citoyens, les regroupements.
VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, 18h30 à Bamako, 19h30 à Kinshasa, 21h30 à Arusha. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, blocage du dialogue burundais à Arusha. La communauté internationale est inquiète de l'impasse politique en RDC. Les autorités burkinabées veulent juger Blaise Compaoré.
Le dernier gouvernement de Blaise Compaoré sera jugé sur le dossier de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014.
Et puis ici aux États-Unis, les immigrés protestent contre les décrets du président Trump.
Si les immigrés ne travaillent pas, l'Amérique ne sera pas bien.
Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, nous ouvrons cette édition avec les difficultés du dialogue burundais. Les efforts pour relancer des pourparlers de sortie de crise au Burundi semblent dans une impasse totale. À Arusha, le gouvernement a refusé de discuter avec l'opposition. Les précisions de Pierre Claver. Nous retrouvons sur place les précisions de Pierre Claver.
Dans un communiqué commun ce jeudi, les quatre organisations sont d'avis que cette situation porte en elle le risque de saper la volonté politique qui a permis la signature de l'accord le 31 décembre dernier. Jusqu'à maintenant, disent-elles, le dialogue sur les modalités de sa mise en œuvre ne va nulle part. D'où le rappel à toutes les parties prenantes, dont la majorité présidentielle et l'opposition, pour redoubler les efforts afin de parachever promptement les pourparlers en cours. L'accord prévoit la cogestion du pays jusqu'à l'élection d'ici à la fin de l'année d'un successeur au président Joseph Kabila, dont le maintien au pouvoir est à l'origine de la crise. Ce sont précisément les négociations pour le partage des places au gouvernement qui piétinent. La mort de l'opposant historique Étienne Tshisekedi est venue compliquer les choses, car elle ouvre la voie à une lutte pour le titre envié de chef de l'opposition.
Bien entendu, vous aviez reconnu la voix de Jacques Aristide et nous parlions du fait que la communauté internationale est inquiète de cette impasse politique en République démocratique du Congo. Nous revenons à présent au Burundi où nous allons pouvoir entendre Pierre Claver qui nous dit depuis Arusha que le gouvernement a refusé de discuter avec l'opposition.
La première journée a été consacrée aux seules consultations du médiateur avec trois anciens chefs d'État burundais ainsi que l'ombudsman du pays. D'autres délégations, notamment de l'opposition interne et externe, n'ont pas eu l'occasion de se retrouver sur la table des négociations. Le facilitateur de la crise burundaise, Benjamin Mkapa, les a indiqué qu'il faudra attendre le parti au pouvoir et la plateforme de l'opposition radicale qui sont en cours de route, selon le bureau de la médiation. Dans son bref discours d'au moins de 2 minutes, Mkapa a annoncé les points forts qui seront abordés. Il s'agit de l'assainissement du climat politique, le retour des réfugiés, la crise économique, les relations diplomatiques et les sanctions économiques qui pèsent sur Bujumbura. À l'absence du gouvernement burundais, le facilitateur a annoncé qu'il n'avait pas invité le gouvernement du Burundi en tant que tel. La séance de ce vendredi s'annonce dure. Selon les délégations, il s'agira d'une rencontre entre le parti au pouvoir et son ennemi juré, le Sénarède, après un temps de sources sûres. Pierre Clavigny-Nguru, depuis Arusha, pour la Voix de l'Amérique.
Le vice-président angolais Manuel Vicente est accusé de corruption, de blanchiment d'argent et usage de faux par la justice portugaise. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le procureur général de Lisbonne, Salwa Jaafari.
En somme, Vicente est accusé d'avoir versé des pots de vin à un magistrat portugais pour qu'il penche en sa faveur dans deux investigations du temps où il était directeur général de Sonangol, la société pétrolière nationale. Le magistrat en question n'est autre que l'avocat de Vicente et son représentant au Portugal. Il est également sur le banc des accusés dans le cadre de l'opération appelée FISE. Les enquêteurs accusent Vicente d'avoir versé 808 000 dollars à Orlando Figuera en prison depuis un an pour abandonner deux enquêtes sur le blanchiment de capitaux et des investissements angolais au Portugal. Les autorités ont saisi environ 540 000 dollars du magistrat. Ces montants ont été trouvés dans des banques en Andorre. Manuel Vicente occupe le fauteuil de la vice-présidence angolaise depuis 2012.
Le député Barthélémy Dias, dissident de la majorité présidentielle, a été condamné aujourd'hui à Dakar à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, pour coups et blessures volontaires lors des violences politiques meurtrières de 2011. Ces violences qui avaient eu lieu dans la capitale sénégalaise. Barthélémy Dias avait été filmé faisant usage d'une arme à feu le jour des violences et il avait alors invoqué la légitime défense. Monsieur Dias dénonce, lui, un procès politique. Toujours au Sénégal, quelques 170 migrants sénégalais qui se trouvaient dans des centres de rétention à Tripoli, en Libye, ont été rapatriés aujourd'hui par avion dans le cadre d'un programme de rapatriement supervisé par l'Organisation internationale pour les migrations. Direction la Libye, le chef du GNA, le gouvernement d'union libyen, Fayez al-Sarraj, estime qu'une occasion précieuse a été manquée pour un début de règlement du conflit en Libye après le refus de son rival Khalifa Haftar de le rencontrer cette semaine au Caire. Avec une insécurité record, une économie en lambeaux et des rivalités politiques, la Libye reste engluée dans une interminable crise de transition, 6 ans après la révolte ayant mis fin à la dictature de Muammar Kadhafi. 59 migrants subsahariens, dont 11 femmes et un bébé, ont été secourus à environ 300 km des Canaries au lendemain de la mort de 9 autres personnes qui tentaient de rejoindre Cadiz en Espagne. Les migrants se trouvaient tout près de la côte marocaine alors qu'ils tentaient de traverser le détroit de Gibraltar par très mauvais temps. Et le roi du Maroc, Mohamed VI, entame aujourd'hui une tournée africaine pour une visite au Ghana, 2 semaines après le retour du royaume au sein de l'Union africaine. Le communiqué du ministère de la Maison royale annonce qu'après le Ghana, le souverain marocain se rendra dans plusieurs pays africains, sans préciser lesquels. La presse marocaine, elle, évoque la Zambie, le Mali, le Kenya, la Côte d'Ivoire et la Guinée.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde. Ici aux États-Unis, Donald Trump vient d'annoncer son choix pour occuper le poste de ministre du Travail après la décision du précédent candidat de retirer son dossier faute de soutien au Congrès. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, Idriss Fall ?
Oui, Claire. D'ailleurs, le président américain s'est dans une conférence de presse qui continue jusqu'au moment où nous nous parlons et qu'il a annoncé son choix au poste de secrétaire au travail.
I just wanted to begin by mentioning that the nominee for secretary of the Department of Labor will be Mr. Alex Acosta. He has a law degree from Harvard.
Je voudrais simplement annoncer que Alexandre Acosta est mon choix pour occuper le poste de ministre du Travail. C'est un juriste de formation, doyen de la faculté de droit de Floride. Il est le premier hispanique de l'administration Trump. Il a plus le profil traditionnel pour ce poste. Après le retrait hier de son précédent candidat, il n'a pas manqué de préciser que son nouveau choix est une star et une personne fabuleuse. Andrew Petz, PDG d'un groupe de restauration rapide, a retiré hier sa candidature, plombée par des révélations sur d'anciens épisodes de sa vie personnelle. Il est le seul membre du futur gouvernement Trump à être tombé ainsi. Un nouveau revers pour le président qui n'a toujours pas son équipe complète après la démission forcée de son conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn et les révélations sur les contacts répétés entre ses proches et le renseignement russe lors de la campagne électorale, Claire.
Merci Idriss. Et puis toujours ici aux États-Unis, le Sénat américain a approuvé aujourd'hui la nomination du parlementaire républicain Mick Mulvaney au poste de directeur du Bureau de la gestion et du budget, équivalent de ministre du budget de l'administration de Donald Trump. Le Parlement européen a adopté une nouvelle législation imposant des contrôles systématiques aux frontières extérieures de l'Europe. Une législation qui cible les combattants étrangers partis combattre en Irak et en Syrie. Entre 2000 et 2500 Européens partis combattre en Irak et en Syrie seraient encore sur place, selon un rapport du coordinateur de l'Europe contre le terrorisme daté de décembre 2016. Fin des discussions sur la Syrie à Astana. Aucun progrès n'a été effectué. Les délégations des rebelles et du gouvernement syrien ne se sont pas rencontrées face à face et aucune déclaration commune n'a été faite. Seuls les parrains russes, turcs et iraniens de cette rencontre se sont mis d'accord sur un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. En Irak, un attentat à la voiture piégée a dévasté le quartier de Baïa à Bagdad, tuant au moins 45 personnes et blessant plus d'une soixantaine. C'est l'attaque la plus meurtrière à frapper la capitale irakienne cette année. Cet attentat, le troisième à Bagdad en trois jours, a été revendiqué par le groupe État islamique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Morgane Guiriec.
En Côte d'Ivoire, les producteurs de cacao ont entamé une grève illimitée. Les cours du cacao ont chuté de 25% en 4 mois et les planteurs ont du mal à exporter leur production. Ils exhortent donc le gouvernement à débloquer un fonds de réserve qui est prévu en cas de crise. En Côte d'Ivoire toujours, la production de noix de cajou a baissé de 7,5% lors de la campagne 2016. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ivoirien qui a décidé d'augmenter le prix d'achat aux producteurs. La Côte d'Ivoire est le premier exportateur mondial de noix de cajou. Et enfin, Congo-Brazzaville, la start-up africaine JT Agro vient d'inaugurer sa première exploitation maraîchère à proximité de Pointe-Noire, rapporte Jeune Afrique.
Et tout de suite, la page sport, ce soir présentée par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire.
Reprise de la Lina Foot au Congo.
Oui, les autorités congolaises ont annoncé à Kinshasa la reprise du championnat de football de première division 2 mois après sa suspension pour des raisons de sécurité. Initialement prévue pour une durée 1 mois, la décision était officiellement justifiée par des craintes d'envahissement de terrain ou de jets de pierre pendant les matchs. Pourtant, le match qui était programmé hier au Stade des Martyrs entre Shark et le FC Renaissance, comptant pour la 11e journée de la zone ouest de la division 1, a été renvoyé à une date ultérieure. Dans la zone est, dans le cadre de la 9e journée, ce jeudi, 2 rencontres entre Dauphin Noir et Bukavu Dawa au stade des Volcans de Brière à Goma. Et dans le même groupe, le CS Makiso jouera le DC Virunga au stade Lumumba de Kisangani.
Nouvelle soirée étoilée en Ligue des Champions en Europe.
Le Bayern de Munich fait exploser Arsenal en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, 5-1. C'était hier, mercredi à l'Allianz Arena. Les Gunners n'ont vu le jour que 30 minutes avant de sombrer. Robben avait ouvert le score dès la 11e minute. Sanchez avait réduit le score à la 30e minute. Et au retour des vestiaires, les Bavarois punissent les Anglais. Lewandowski, puis Alcantara par 2 fois. Et enfin, Müller présente une facture salée, 5-1. Un score sans appel et logiquement, les Munichois sont quasiment en quart de finale avant le match retour à Londres.
Le Real a eu plus de mal, mais l'a quand même emporté face à Naples.
Mené dès les premières minutes à Santiago Bernabéu, les tenants du titre égalisent par Benzema. Puis Kroos et Casemiro permettent au Real Madrid d'envisager le match retour en Italie avec confiance.
La FIFA contre-attaque.
La Fédération internationale de football affirme qu'il n'y a aucune preuve d'effet négatif suite à des coups de tête ou à divers chocs au lendemain d'une étude sur les risques plus élevés pour les footballeurs professionnels de contracter une maladie du cerveau. En effet, l'étude publiée hier dans la revue Acta Neuropathologica a été faite sur 14 anciens footballeurs, dont 13 professionnels atteints de démence et hospitalisés à Swansea entre 1980 et 2010.
Et enfin, les résultats de la NBA, le championnat de basket du continent nord-américain.
Il n'a fallu que 29 minutes à Westbrook pour s'offrir son 27e triple-double de la saison face aux Knicks de New York, victoire 116-105. Du haut de son 1m75, Isaiah Thomas est en train de réécrire l'histoire des Celtics, la franchise la plus titrée de la NBA. Victoire contre Philadelphie 116-108. Thomas a marqué 33 points et dépassé pour le 40e match de suite le seuil des 20 points, égalant ainsi un vieux record de 45 ans. LeBron James a marqué 31 points lors de la victoire de Cleveland devant Indiana, 113-104. Enfin, Golden State a renoué avec la victoire à Sacramento, 109-86.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place maintenant au dossier du jour. Et nous nous dirigeons au Burkina Faso, où le procès de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, chassé du pouvoir en 2014, se tiendra les semaines à venir, selon le procureur du Faso. En exil depuis 2 ans en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré sera absent. Les autres personnes concernées par ce procès sont des membres du dernier gouvernement de Compaoré. Pour plus de détails, Bagassikoura a joint le directeur du journal Aujourd'hui au Faso, Dieudonné Zungrana.
C'est courant mois de mars, a fait savoir le procureur de la Haute Cour de justice, M. Armand Ouedraogo. Donc, courant mars, le dernier gouvernement de Blaise Compaoré sera jugé sur le dossier de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014.
Donc, il s'agit uniquement des ministres et de Blaise Compaoré lui-même. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités comme des directeurs?
Pour le moment, officiellement, c'est le dernier gouvernement de Luc Adolphe Thiaw, c'est-à-dire le gouvernement qui s'est réuni le 29 octobre pour examiner et adopter la loi sur l'article 37 qui devait être envoyée à l'Assemblée pour être votée. Donc c'est ce gouvernement-là qui sera jugé. Et en rappel, ils étaient 34, mais pour le moment, il y a 7 qui sont absents. Il y a 7 qui sont hors du pays, donc ils seront jugés par défaut.
Est-ce qu'on sait s'il y a eu des mandats d'arrêt, par exemple contre Blaise Compaoré ou certains de ces ministres dont vous dites qu'ils sont absents?
Oui, il y a un mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré qui, au dit de la haute cour, n'a pas encore été levé. Et contre, par exemple, des ministres comme Marie-Noël Bembamba, l'ex-grand argentier du Burkina. Bon, certains ministres aussi avaient été emprisonnés et ils ont bénéficié d'une liberté provisoire et certains ont profité pour quitter le pays. C'est le cas, par exemple, de l'ancien ministre des Mines et le Moufès Salif Kabore. Et donc, il y a un certain nombre, en tout cas, ils sont au total 7 officiellement qui seront aux abonnés absents à ce procès-là.
Est-ce qu'on sait si certains responsables militaires seront aussi jugés en même temps?
Bon, il y a un peu le cas de Zida, mais vous savez que Zida est au Canada, parce que lui aussi, il était le numéro 2 du RSP. Mais bon, officiellement, il n'y a rien. Il y a aussi le cas, par exemple, pour Djibril Bassolé aussi, qui est général de la gendarmerie, lui aussi, il était ministre des Affaires étrangères. Bon, donc, il tombe sous le coup de cette inculpation parce qu'il faisait partie des ministres qui étaient au Conseil des ministres le 29 octobre 2014.
Alors, que dit le parti de Blaise Compaoré concernant ce procès? Est-ce que dans ce cas, on parle de chasse aux sorcières?
Bon, bien sûr, ça c'est un peu la rengaine que l'ex-parti majoritaire s'éline chaque jour. Bon, mais pour le moment, la nouvelle est tombée il y a 24 heures, donc on n'a pas encore eu une réaction officielle.
Dieudonné Zungrana, directeur du journal Aujourd'hui au Faso, il répondait aux questions de Bagassikoura.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
L'insertion économique des réfugiés au Cameroun n'est pas aisée pour tous. Détenteurs ou pas de la carte de réfugié, qu'ils soient ou non en âge de travailler, étudiants ou artistes, ces jeunes venus pour certains de la Centrafrique doivent fournir beaucoup d'efforts pour joindre les deux bouts. L'histoire d'une survie au quotidien. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Jules Tape.
La voix est celle de Pico, un jeune comédien conteur centrafricain, ex-résident du quartier Bouirame à Bangui. Arrivé au Cameroun en septembre 2013 du fait de la guerre dans son pays, il est aujourd'hui hébergé par un expatrié français et gagne désormais sa vie au prix de son talent de comédien-conteur.
En tant que comédien, théâtre que je fais, et j'enseigne aussi à l'école. L'art me donne un peu, à l'école aussi ça me donne un peu. Parfois je joue aujourd'hui, ça ne paye pas, et demain quelqu'un me trouve et dit « Ah, c'est toi l'artiste là ?» Il me donne 30 000, 50 000.
Quant à Syriac, c'est son effort intellectuel qui lui a valu le statut d'étudiant réfugié centrafricain. Il est aujourd'hui boursier du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du Cameroun.
On nous a soumis à un test de niveau. Nous étions plus de 200 et quelques réfugiés pour 10 places. On nous a exigé pour qu'on maintienne dans le programme de la bourse, il va falloir qu'on trouve une moyenne de 12 à la fin de notre formation chaque année.
La bourse en question lui donne droit à 70 000 francs CFA par mois et 650 000 francs CFA par an pour ses études. Syriac ne saurait demander plus, tout comme Michael, un autre jeune centrafricain, 22 ans, lui aussi réfugié de guerre. C'est une église évangélique qui est désormais sa raison de vivre au Cameroun.
L'église, ça fait déjà un an que je travaille dans cette église, Vara Contre, Temple des Nations. Je suis assistant monteur, donc ça m'aide aussi à assumer certaines responsabilités que moi j'assume.
L'insertion des jeunes centrafricains au Cameroun concerne aussi Socrate, l'ancien responsable multimédia de 2008 à 2012 de la cellule de presse du président François Bozizé, a dû se reconvertir ailleurs.
Présentement au Cameroun, j'ai mon petit structure audiovisuelle. Nous faisons les reportages audiovisuels, les clips vidéo. J'ai créé une radio web.
Cependant, Yaoundé n'est pas favorable à tous les jeunes réfugiés centrafricains. Trésor et trois de ses compatriotes partagent les mêmes souffrances d'une vie à la belle étoile au Cameroun.
Il faut que je vois marcher ou trouver même une petite job qui peut me donner même 1000 francs.
Tu dors où ?
Je dors seulement dehors.
Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun, près de 260 000 réfugiés centrafricains sont sur le territoire camerounais. Officieusement, il serait un peu plus, car de nombreux centrafricains ayant fui la guerre pour venir au Cameroun ne sont pas enregistrés au HCR, gonflant ainsi la liste des candidats à la survie au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici à Washington, le président Donald Trump a déclaré hier, en recevant le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, que la solution à deux États n'était pas la seule possible pour régler le conflit israélo-palestinien. Depuis des décennies, les États-Unis ont toujours défendu cette solution dite des deux États, un État palestinien et un État israélien, chacun vivant côte à côte et dans la paix. Idriss Fall a recueilli la réaction de Bassel Tagerman, journaliste palestinien basé à Tunis.
La paix entre les Palestiniens et les Israéliens depuis l'année 2000, c'est un rêve qui n'a jamais existé. C'est un petit mensonge pour passer le temps. Maintenant, c'est l'heure de la vérité. Je trouve que c'est nécessaire que les Palestiniens donnent les clés pour les Israéliens et disent merci beaucoup. C'est la fin de l'autorité palestinienne. Le modèle maintenant, on va y aller pour un État pour deux peuples. Mais est-ce que ce modèle va être un modèle d'apartheid ou bien un État démocratique? Les Israéliens, pour le moment, avec le gouvernement de droite de Netanyahou, commencent d'établir un système d'apartheid dans le territoire palestinien.
Mais Donald Trump a dit quand même qu'il va laisser les deux parties trouver la solution.
Il n'y a pas de solution. Les Israéliens, ils n'ont jamais été sérieux pour faire la paix avec les Palestiniens. Il faut donner les clés pour les Israéliens. Alors Israël va assumer ses responsabilités et prendre les clés et prendre la solution dans ses mains. Ce n'est pas l'affaire des Palestiniens, c'est les affaires des Israéliens qui refusent de faire la paix.
Et pourtant, Donald Trump a quand même demandé à Israël de freiner la construction de logements juifs dans les territoires palestiniens.
C'est de n'importe quoi. C'est juste pour les médias, ce n'est pas sérieux. La solution des États, ce n'est pas les Palestiniens ni les Israéliens parlaient de ça. C'est le propos américain depuis le président Bill Clinton. Maintenant, Les Américains ne vont pas, c'est leur plein droit. Mais c'est leurs alliés, les Israéliens, assument la responsabilité. Israël peut faire un seul État pour deux peuples. On s'arrête là.
Pour enfoncer le clou, Donald Trump a dit qu'il réfléchit à transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem.
Ce n'est pas une surprise. Le président Trump, elle est très claire dans sa proposition. Elle va mettre fin avec tout ce qu'il dit. Elle ne veut pas déclarer la guerre contre les musulmans ou contre les Palestiniens. Non, elle va mettre fin, on peut dire maintenant, adieu, le processus de paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Elle va mettre l'ambassade à Jérusalem et elle ne veut pas faire deux États. Alors elle va faire un seul État pour deux peuples. Je suis tellement content qu'on va vivre avec les Israéliens dans un seul État. Il n'y a pas de problème. Israël, c'est un État démocratique. Alors, il faut respecter les Palestiniens et accepter les Palestiniens comme des citoyens de l'État d'Israël et vivre ensemble pour l'avenir.
Mais le Hamas ne va jamais accepter ça. Le
Hamas, elle n'est pas de rôle essentiel dans ce processus. Comme il y a un seul État, le peuple palestinien va dire oui pour vivre avec les Israéliens dans un seul État. Il n'y a pas de problème sur ça. Que les gens, pour attendre un paix qui ne vient jamais, alors un seul État dans le territoire de 48, dans le West Bank et au Gaza. Ça fait 70 ans, on vit ce malheur et on n'a pas de résultat.
Bassel Tagerman, journaliste palestinien basé à Tunis.
Dans Washington Forum ce jeudi, on revient sur le décret anti-immigration, le bras de fer entre Donald Trump et la justice fédérale, un texte contesté puis bloqué par un juge de l'État de Washington, mais qui génère encore de la confusion. Qui vise-t-il? Quels sont les recours possibles? Donald Trump qui fait appel peut-il passer en force? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mousseau et ses invités.
Une journée sans les immigrés, c'est le thème du boycott lancé aujourd'hui aux États-Unis par la communauté latino. Beaucoup de restaurants et de magasins sont fermés et les enfants ont raté l'école. Les immigrés africains ont également répondu à cet appel du boycott pour montrer l'impact et la contribution de l'immigration à l'économie américaine. Dili Diko a joint une restauratrice sénégalaise de New York ayant préféré garder l'anonymat.
Les immigrés qui n'ont pas des papiers, ils ont peur. Celles qui ont des papiers même sont peur. Parce que si les immigrés ne travaillent pas, l'Amérique ne sera pas bien. Parce que ici, c'est les immigrés qui travaillent. Parce que ce qu'elle fait là, ce n'est pas bon pour l'État, ce n'est pas bon pour les personnes. Hein? Chaque fois, les gens sont peur, les élèves ne peuvent pas partir partir à l'école. Les gens sont peur, les gens ne sortent pas. Tout ça, là, c'est pas bon pour l'État. Parce que l'argent devait circuler. C'est ça qui est bon pour le peuple. C'est pour ça que les gens sont très peur.
Selon vous, à quel point les immigrants participent-ils à l'économie américaine?
C'est les immigrés qui font tout. Tous les travaux durs, c'est les immigrés qui font ça. Il n'y a pas un Américain blanc qui fait les travaux durs, là. C'est les immigrés qui viennent travailler, se battre. Tous les travaux qu'on fait, c'est les immigrés qui font ça. Tous les travaux que tu vois ici, c'est les immigrés qui font ça. C'est les immigrés qui se battent pour l'État. Si les immigrés ne travaillent pas, ce n'est pas bon pour l'État. Ils achètent beaucoup de choses et ils dépensent. Tu as vu, les avions n'est pas venus. Les gens qui venaient en Afrique, qui venaient payer des marchandises ici, ne sont pas venus. Ce n'est pas bon.
Quelles sont vos craintes à ce jour? Qu'est-ce qui vous fait peur?
Je n'ai pas peur parce que si on nous cherche, on va retourner dans notre pays. Mais ce n'est pas bon. Comme tout le monde est fermé, on va fermer. C'est ça. Et les étudiants sont très fatigués ici. Ils sont très fatigués. On n'a jamais vu un président comme ça qui vient traumatiser les gens ici. C'est la première fois en Amérique.
Une restauratrice sénégalaise jointe par Dili Diko à New York.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin. fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Souleymane Tarawali. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Tout de suite, retrouvez l'émission Washington Forum, présentée par Timothée Donangmaï. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.